Sophonie.
Oh, j'aime beaucoup Sophonie, c'est la fin des temps à tout bout de champ. Il reste plus rien, tout est cramé. Sophonie, Habacuc, qui vécurent pendant la captivité à Babylone, Agée, Zacharie et Malachie, qui prophétisèrent après la captivité à Babylone. Dans les gospels, ils aiment beaucoup chanter avec des rythmes afro les psaumes. Donc, du temps de Babylone. Quand ils étaient à Babylone, imaginez, c'est l'équivalent de l'Irak actuel. On leur disait, chantez-nous des chants juifs. Et eux, ils sont là, sur le bord d'un fleuve irakien, et vous voulez qu'on vous chante des chants juifs? Non, on accroche nos harpes aux branches des arbres et on pleure, tant qu'on n'a pas revu Jérusalem. Eh bien, lorsque les Romains détruiront Jérusalem en l'an 70 par les armées de Titus, Vespasien, eh bien, les Juifs reprendront les prières des prophètes et à chaque Pâques, ils disent l'an prochain à Jérusalem. Et ce qui est un événement historique, c'est 1948. C'est une grande majorité du peuple juif qui retourne en Terre Sainte. Et ça, c'est forcément un événement religieux que la Sainte Trinité n'a pas laissé passer comme ça. Mais nous en reparlerons. De Malachie à Saint Jean-Baptiste, il s'écoula 450 ans environ, pendant lesquels on ne vit paraître aucun prophète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont eu une avalanche de miracles, une avalanche de prophètes, et tout d'un coup, plus rien pendant 450 ans. Faut dire qu'au bout de 450 ans, ils ont été servis. Mais c'est le Messie, résurrection des morts, miracle en quantité. Enfin, il suffisait de toucher la fibre de son vêtement pour être guéri, le Christ. Donc c'est un choc. Les Juifs n'avaient plus besoin de ce secours. Les événements qui se succédaient dans leur histoire n'étaient que la réalisation des prophéties. Les confirmaient dans leur espérance relativement au Messie. 450 ans sans miracle. Voyez? L'importance des miracles dans l'histoire sainte. Qu'est-ce que vous croyez? Eux s'y sont accrochés. Et nous on dit, oh mais bon, depuis Jésus, il n'y a pas de miracle. Oui, parce que les saints n'en ont pas demandé et obtenu. Voyez? Mais ça, je vous en ai parlé la dernière fois. Pourquoi l'Église demandait quatre miracles, deux pour la béatification, deux pour la canonisation. Maintenant que la technologie, les études médicales sont très fines, on a réduit à deux miracles, un pour la béatification, un pour la canonisation. Mais on demande à Dieu des miracles dans le Nouveau Testament. Et Dieu fait des miracles dans le Nouveau Testament. Vous savez, à Rome, chaque année, on se rappelle de Saint Philippe Néri qui a demandé la résurrection d'un petit enfant. On se souvient à Turin de Saint Jean Bosco qui a ressuscité deux petits enfants de 12 ans, 10 ans. Et tout ça reste dans nos mémoires. En Suisse, on se souvient que Saint Nicolas de Flux n'a pas mangé pendant 15 ans, ni bu d'ailleurs. Et nous, eh bien, on a la vénérable Marthe Robin, et il va falloir qu'on explique pourquoi pendant près de 40 ans, elle n'a ni mangé ni bu. Et c'est chez nous, c'est maintenant, c'est là. Donc, eh bien, les Hébreux, eux, ont la mission de transmettre la foi au monde entier, donc 450 ans de disette, aucun problème. Ils gardent la foi. Eh bien, imaginez Zacharie. Il est prêtre de la famille d'Aaron. Ça fait 1400 ans qu'ils sont prêtres. Ça fait 400 ans qu'ils n'ont pas de miracle. Et il va dans le temple pour offrir les parfums le soir, les vêpres. Pourquoi il y a de l'encens aux vêpres le dimanche, à votre avis? C'est le sacrifice vespéral, l'encens qu'on mettait devant l'Arche d'Alliance. Parce qu'on est devant le corps du Christ, l'Arche d'Alliance accomplie. Et voilà qu'un ange lui apparaît. Alors que dans les années 130-180, vous avez des saints hommes comme Judas Maccabée, qui étaient des généraux juifs, qui sont morts généreusement pour défendre leur pays, contre l'envahisseur, mais qui n'ont pas obtenu de miracle. Vous avez Zacharie qui entre dans le temple, et qu'est-ce qu'il voit? Ça faisait 450 ans quand même, un ange. Et puis un ange, un gros, hein, grand, Gabriel. Et Gabriel lui dit, tu auras un enfant, et tu l'appelleras Jean. Et il ouvrira la voie pour le Sauveur, pour le Messie. Et là, Zacharie, le pauvre, il a 80 ans, 75, sa femme, la même chose, Élisabeth, dit, tu veux avoir un enfant. Mais si vous voulez, lui, il a appris son catéchisme, il a appris son histoire sainte, et il se trouve devant un ange qui lui dit qu'il va avoir un enfant. Alors, bien sûr, ça fait tilt dans sa tête. Abraham, enfin, voilà. Mais ça fait longtemps quand même, hein. Il dit, c'est tout à fait possible. Mais pas pour moi, mais c'est pas possible. C'est possible, mais c'est pas possible. C'est possible, mais c'est pas possible. Voilà. Voilà ce qui se passe dans la tête du pauvre Zacharie. Et là, petite piqûre d'Ancien Testament, Gabriel lui dit, tu ne me crois pas? Hein, t'as la mémoire courte quand même. Ben, 450 ans, ça fait longtemps quand même. À chaque fois qu'on désobéit à Dieu ou à un messager de Dieu, il y a une punition derrière. Hein. Eh bien, toi, tu vas être muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Je suis Gabriel, un des sept esprits qui se tiennent toujours devant la face de Dieu. Et tu ne me crois pas? Gabriel disparaît, lui il sort du temple, muet. C'est un motif de crédibilité pour sa vision, pour lui-même d'ailleurs. Et là, les pieuses personnes qui sont aux vêpres le dimanche, là, et ils sont là, et lui il arrive, il veut. Oui, enfin, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais. Or, le commentaire de l'évangéliste, c'est « Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de miracle en Israël. » Qu'est-ce que c'est? Mais le commentaire, je ne crois pas qu'il soit là. Il est lorsque, un an plus tard, donc il se rapproche de son épouse âgée, pose l'acte conjugal tout à fait naturellement, sans y croire trop. Enfin là, il avait plutôt intérêt à y croire. Et Élisabeth tombe enceinte. Au même moment à Nazareth, vous avez Gabriel, lui, alors là, par contre, pas trop sévère, calme, calme. Il est face à une femme qui est pleine de grâce, hein, donc ça sera plus nuancé et plus fin que Zacharie. Donc il la salue profondément, il la reconnaît comme pleine de grâce, et il lui dit, vous allez enfanter le Messie. Le fils de David, s'il vous plaît. Et là, la Vierge Marie, dans sa vie de prière, dans son offrande à Dieu, dit, eh bien, voyez-vous, je ne sais pas trop comment ça va se faire, puisque j'ai consacré ma virginité, je ne connais point d'homme. Vous voyez, Gabriel, là, il est face à l'Immaculée Conception, qu'il est en train de lui dire, mais moi, j'ai renoncé à une vie corporelle, sensible, tout à fait légitime, pour une vie spirituelle et de prière. Je ne connaîtrai pas d'homme. Elle est fiancée à Joseph. Dans la tradition, il est dit que des prêtres du temple ont fait les entremetteurs entre Joseph et Marie, pour que l'un et l'autre vivent dans la prière, puisque Marie voulait cette vie de prière. Joseph savait très bien qu'il avait épousé une femme qui se consacrait à la prière. Et la Vierge Marie a 16 ans environ. On se marie à 12 ans hein, en Orient. Elle a 16 ans et elle sait très bien comment on fait des enfants. Voyez ? Donc il est bien évident que la Vierge Marie objecte d'être la mère du Messie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'honneur que c'était pour une femme juive de devenir la mère du Messie. Elle dit, ben non. Enfin, comment ça va se faire ? Expliquez-moi un peu. Et là, au lieu de s'énerver et dire, je m'appelle Gabriel, c'est comme Zacharie. Non, là, tranquille. Il dit, eh bien, l'Esprit Saint vous couvrira de son ombre. Et là, il en rajoute, hein. Et l'enfant qui naîtra de vous sera appelé saint, il sera le fils du Très-Haut. Ça, il lui dit, non, c'est pas possible, vous pouvez pas dire non. Et la Vierge Marie, attention, cette révélation est très importante pour elle. Elle le vit, hein, les paroles de l'ange. L'Esprit Saint vous couvrira de son ombre. Très bien. Alors, j'accepte d'être la mère du Messie. Et là, à ce moment-là, l'Esprit Saint forme dans le corps de Marie, prend un ovule de Marie, lui ajoute le XY pour que ça soit un garçon, et Jésus a l'ADN de Marie à 99%. Oui. Comment ?
Il ajoute que le Y.
Il ajoute que le Y, mais c'est déjà pas mal. Pardon, oui, c'est...
Voilà, non, oui,
il ajoute le Y. Voilà, mais si il ajoute le Y, voilà, pour que ce soit un garçon. Alors, ça fait sourire, tout ça. Oui, mais non, du tout, hein, c'est un dogme, hein, et on rigole pas du tout avec les dogmes. Je peux vous assurer, la Vierge Marie est vierge, donc, du sang le plus pur de la Vierge Marie, donc de sa cellule... Oups. Eh bien, la Vierge Marie va concevoir l'enfant Jésus. À ce moment-là, au moment du fiat, c'est-à-dire que dans la tradition liturgique, c'est très joli, le jour exact, le bon Dieu ne nous demande pas de savoir le jour exact. On a fixé au 25 mars. Et 9 mois plus tard, c'est le 25 décembre. Eh bien, voyez-vous, l'archange Gabriel se retire. Joseph, lui, doit vivre cela. Mais l'archange Gabriel lui parle alors qu'il dort. Ça s'appelle un songe. Un rêve, ça vient de nous. Un songe, ça vient de l'extérieur. De Dieu, normalement. Et l'archange Gabriel, avant de partir, dit à Marie que sa cousine Élisabeth attend un enfant depuis 6 mois. La Vierge Marie part à la rencontre de sa cousine. Et entre-temps, dans le village, ils attendaient cette naissance. Quelle était cette naissance ? La Vierge Marie s'occupe d'Élisabeth. Et il semble que la Vierge Marie, on ne parle pas de la Vierge Marie au moment de la naissance même de Jean. L'enfant naît. Zacharie est toujours muet. Et on demande à la mère son nom. Ça fait belle lurette que Zacharie a mis sur des tablettes à son épouse. On l'appellera Jean, hein, parce que j'ai pas envie d'être muet toute ma vie. Hein. Bon. Eh bien, elle dit ça sera Jean. On se retourne vers Zacharie en disant mais personne ne s'appelle Jean dans la famille. Et lui prend justement une tablette et dit son nom sera Jean. Et là, il retrouve la voix. Et on dit la prière de Zacharie tous les jours au Laude. Et alors, quelle est cette belle prière ? C'est le Benedictus Deus Israël. Et alors, voyez, c'est quand même très important. Et nous allons voir justement ces prophéties. Voilà ce que dit Zacharie quand il retrouve la voix au bout d'un an. enfin 9 mois environ. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Ça faisait 450 ans qu'ils n'avaient pas de miracle. Hein. Et qu'il a suscité une force pour nous sauver dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il l'a promis par la bouche de ses saints, de ses prophètes depuis les temps anciens. Pour nous sauver de nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Alors c'est quoi? C'est les ennemis militaires d'Israël ou c'est les ennemis du salut de l'âme? Les Juifs vont devoir tout réinterpréter, toutes les prophéties, par rapport au salut de l'âme et pas par rapport à un combat militaire. Jérusalem ne va plus devenir une ville, mais Jérusalem va devenir le lieu, l'état de l'amour de Dieu, le corps du Christ. Et nous devenons des membres de ce corps. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat militaire, il n'y a plus de ville à défendre. Alors vous allez me dire, aux croisades, on a voulu défendre Jérusalem et les lieux saints. Oui, mais en soi, voyez-vous, pendant 2 siècles, voire plus, ces lieux saints étaient occupés. Ce n'est pas essentiel. Mais il y avait surtout les chrétiens d'Orient qui se faisaient tuer là-bas. C'est aussi pour ça qu'il y a eu ces croisades. Ensuite, il peut y avoir eu des exactions de la part des croisés, il peut y avoir eu des règlements de compte des Vénitiens pour récupérer Constantinople. Mais en soi, voyez-vous, quand Urbain II demande la première croisade, c'est pour les chrétiens d'Orient et les lieux saints. Afin d'exercer sa miséricorde envers nos pères et de se souvenir de son alliance sainte. Chapitre 1, verset 68 de l'Évangile selon saint Luc. Selon le serment qu'il fit à Abraham notre père. Verset 74. Quelle mémoire! Quelle religiosité! Et quelle inspiration! Zacharie, selon le serment qu'il fit à Abraham notre père, de nous accorder que sans crainte, affranchis du pouvoir de nos ennemis, nous le servions avec une sainteté et une justice dignes de ses regards tous les jours de notre vie. Quant à toi, petit enfant, là il parle à Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer les voies, pour apprendre à son peuple à reconnaître le salut dans la rémission de leurs péchés, par l'effet de la tendre miséricorde de notre Dieu, grâce à laquelle nous a visité d'en haut le soleil levant, l'Oriens, qui est un surnom du Christ, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la voie de la paix. Eh bien ça, voyez-vous, pour les Juifs, vous allez me dire, mais comment cet événement n'a pas été plus connu? Eh bien parce que c'était incroyable. Qu'est-ce que c'était que ce prêtre qui dit que son fils va être un prophète qui va annoncer le Messie? On attend de voir. Eh bien du coup, on continue à la page, les petits prophètes, principales prophéties relatives au Messie. Dans le paradis terrestre, Dieu dit au serpent, tu es maudit entre tous les animaux de la terre. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre au talon. C'est quand même beau que dans le monde entier, on représente Marie en train d'écraser la tête d'un serpent et de savoir que des gens qui scrutent le livre de la Genèse lisent ça. Alors vous allez me dire, bah oui, comme c'était écrit, ils ont copié, enfin ils l'ont fait. Oui, mais vous voyez, pour que ça se réalise à ce point-là. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays et de ta parenté, de la maison de ton père, et viens dans la terre que je te montrerai. Je te rendrai le père d'un grand peuple et ton nom deviendra célèbre et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Vous vous rendez compte? Il y a 2800 ans environ, il y a un homme qui dit « Toutes les nations connaîtront ma religion. » Voilà. Quelle prétention! Mais ça, c'est la marque du vrai Dieu. C'est une prophétie. Dieu dit à Abraham, en lui promettant un fils, « Sarah te donnera dans un an un fils que tu appelleras Isaac. C'est avec lui et sa postérité que je contracterai une alliance éternelle. » Incroyable. Lorsque Jacob fuit en Mésopotamie, le Seigneur lui apparaît en songe à Bethel et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je te donnerai à toi et à tes descendants le pays où tu es, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et dans celui qui sortira de toi. » Toutes les nations de la terre. Les Australiens, les Africains, les Japonais, les Indonésiens. Non mais c'est pas possible. Vous voyez ? Incroyable. Et alors, les Américains, qui sont des Hollandais, des Britanniques, des... Enfin, il y a tout pour faire un monde aux États-Unis. Des Belges, des Suédois, des Anglo-Saxons, des Saxons. Et eux, ils sont là, et en 1948, ils voient le peuple juif, en grande majorité, revenir sur la Terre Sainte. Et ils prennent la Genèse, Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, je te donnerai à toi et à tes descendants le pays où tu es. » Waouh ! La prophétie se réalise à nouveau. Donc eux, ils vont par Saint Paul, et Saint Paul dit, à la fin des temps, le dernier peuple à reconnaître que Jésus est le Messie, eh bien ça sera son peuple. Et quelle gloire ça sera, puisque lorsque une partie des Juifs ont douté, ça a permis à tous les peuples de connaître leur religion et leur Messie. Et quand les Juifs entreront dans cette connaissance plénière du Messie, ça va. Qu'est-ce qui va se passer? Saint Paul dit que ça sera merveilleux. Et les Anglo-Saxons, ils disent, waouh, 1000 ans, tous avec un iPhone, tous avec un iPad et avec du Wi-Fi Max. Et tous avec des jeux vidéo. Et on mourra pas pendant 1000 ans, on sera pas malade, on mourra pas, et Jésus sera le roi de l'ONU. C'est ce qu'on appelle le millénarisme. Et c'est une hérésie. Donc, mais eux, ils sont à fond les ballons, et donc ils disent, waouh, c'est merveilleux, c'est bientôt, non pas la fin des temps, mais c'est bientôt le règne de Jésus pour 1000 ans. Et quand vous avez Adolf Hitler, lui, qui était catholique d'enfance, mais dans un pays très protestant aussi, tout ça, donc il était teinté de millénarisme, et qu'est-ce qu'il dit quand il dit, waouh, la nation allemande, ça va être fantastique, on va détruire tous nos ennemis, les juifs veulent notre peau, les slaves veulent notre peau. Il faut jamais oublier combien Adolf Hitler haïssait les slaves. Pour eux, c'était... il les détestait, je ne sais pas ce qu'il leur avait fait exactement. Enfin. Et mon Reich durera 1000 ans, car je serai le lieutenant du Christ. Hein? C'est... Vous savez... Connaître la Sainte Écriture et connaître son catéchisme, c'est connaître beaucoup de choses de ce qui se passe en ce moment. Jacob mourant dit à son fils Judas en le bénissant. Et alors là, c'est très 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 important. Tes frères te loueront et se prosterneront devant toi. Ta main sera sur la tête de tes ennemis. Donc il est en train de dire qu'il va devenir le chef du peuple. Mais à l'époque, il est Judas, un des 12 enfants. Et ça sera seulement environ 400... Oh non, 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 ça fera 600 ans plus tard que Judas va devenir... La tribu de Judas va donner le roi. Alors bien sûr, mes amis les exégètes, disent, mais c'est impossible que Jacob, qu'il y ait une pépite prophétique au milieu comme ça de la Genèse. C'est pas possible, c'est pas pensable que Jacob ait pu être inspiré par Dieu pour dire que ce fils-là aura un roi et que de ce roi viendra le Messie. C'est pas possible, c'est une prophétie sur 1600 ans, c'est trop. C'est trop. C'est trop pour Dieu, hein. Dieu est pas très puissant, vous savez. Bon. Eh bien, il n'empêche que lorsque vous trouvez des écrits de la Genèse de 400 ans avant Jésus-Christ, des rouleaux et tout ça, et que vous avez la prophétie de Jacob noir sur blanc, hein, c'est quand même au moins justement 300-400 ans avant Jésus-Christ, c'est pas mal vu. Si c'est une pieuse fraude de 1600 ans, faussement de 1600 ans, elle est au moins de 400 ans. Sans compter que les Juifs recopiaient la Bible, s'il y avait une erreur, tout était jeté de la page qu'ils copiaient. Les manuscrits de la Mer Morte vous donnent des manuscrits très anciens et qui montrent que ces écrits-là sont encore plus anciens puisqu'ils recopiaient tout avec un soin extraordinaire. Le sceptre ne sortira pas de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne celui qui sera l'attente des nations. En latin, le désiré des nations. Vous vous rendez compte un peu? 1600 ans avant. C'est incroyable. Eh bien, les exégètes, ils n'y croient pas. Eh bien, j'y crois. J'ai la faiblesse d'être... Mais vous êtes un concordiste. Les concordistes, c'est une insulte. C'est ceux qui prennent la Bible et disent « Tout doit correspondre exactement. » Donc, par exemple, l'exemple de concordisme excessif, c'est le fait que le soleil tourne autour de la terre pour que le psaume qui dit que le soleil se lève soit vrai. Mais le roi David ou ceux qui composaient des prières, s'ils savaient pas, connaissaient pas l'héliocentrisme, eux ils décrivent ce qu'ils voient. Donc vous avez des fondamentalistes chrétiens ou biblistes qui vont dire non, en fait on nous ment, c'est un complot et le soleil tourne autour de la terre. Ça existe, il y en a encore. Alors bon, c'est l'affaire Galilée, tout ça, mais enfin Galilée c'est vraiment autre chose. Galilée était quelqu'un qui voulait qu'on corrige des morceaux de la Bible. Il disait pas c'était poétique ou autre, il disait il faut les corriger. Et vous savez d'où il venait? Il était à la cour de Rome. Les cardinaux étaient, il mangeait avec les cardinaux, le pape qui l'a condamné, il mangeait avec lui, il a préfacé un de ses livres. Alors comment il a été condamné? Ben parce qu'il était d'une prétention inimaginable, d'une arrogance incroyable, et à la fin, tous ses copains cardinaux ont fini par lui rabaisser le caquet. C'est tout. Enfin, je vous conseille de lire La vraie vie de Galilée pour savoir exactement. Il a jamais été en prison, hein. Il a été assigné à résidence dans une villa avec environ une dizaine de serviteurs. Le pauvre. Lorsque David songeait à bâtir un temple, le Seigneur lui dit « Je mettrai sur ton trône un fils qui naîtra de toi. J'établirai son trône pour l'éternité. » Waouh ! « Je serai son père et il sera mon fils. » Comment vous interprétez ça, quand même ? Époque de la venue du Messie. Daniel prédit la venue du Messie. Depuis l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jérusalem, jusqu'à la venue du Christ, chef du peuple, il s'écoulera 70 semaines d'années. Il va même décrire la dernière semaine qui correspond à la passion du Christ, en disant que le sacrifice s'arrêtera. Au temple, on ne sacrifiera plus l'agneau pascal. Pourquoi ? Parce que le véritable agneau pascal sera arrivé. Agée prédit que le Messie honorerait de sa présence le temple reconstruit après la captivité, le deuxième petit temple. Encore un peu de temps et j'ébranlerai le ciel et la terre, et le désiré de toutes les nations viendra. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Agé vit environ 500 ans avant Jésus-Christ, et il est en train de dire que le petit temple qu'ils sont en train de construire va recevoir le Messie, et que ça sera un plus grand honneur que le temple de Salomon. Et Jésus va entrer dans ce temple. Et il va entrer dans ce temple par la porte est. Un jour, il y a un rabbin qui a dit à Netanyahou, à la télévision, « Vous avez bien travaillé pour Israël, mais il vous manque encore une chose. N'oubliez pas qu'il doit entrer par la porte est. » Qu'est-ce que disait ce rabbin à Netanyahou ? De reconstruire le temple pour que le Messie puisse entrer par la porte est. Mais reconstruire le temple, c'était « Faites donc la Troisième Guerre mondiale, mon cher ami. » Oui. Mais c'est très particulier et c'est pour ça qu'il faut prier. Et que la religion est chose importante. Et que pour que nous soyons en paix, il faut que Jésus comme fils de Dieu soit reconnu comme prince de la paix. Naissance et enfance du Messie, troisième page. Michée prédit la naissance du Messie à Bethléem. Et toi, Bethléem d'Éphrata, tu es très petite entre les villes de Juda. Mais c'est de toi que sortira celui qui doit être le dominateur d'Israël. Et quand Hérode demande aux scribes, aux prêtres, qu'est-ce qu'ils racontent ces rois qui, de petites villes, hein, les rois mages, ce sont les chefs de petites villes, des rois, versés dans les écritures, dans l'histoire, dans l'étude des astres, et qui ont cru dans les écrits des juifs. Et les prêtres, les scribes, les docteurs de la loi disent à Hérode, il faut les envoyer à Bethléem, c'est à Bethléem. S'ils cherchent le Messie, c'est à Bethléem. Et Hérode, lui, il est Iduméen, il vient d'accomplir la prophétie du sceptre qui sort de la tribu de Juda. Le roi n'est plus de la tribu de Juda, officiellement. Donc, il va faire tuer l'enfant, puisque c'est son concurrent. Isaïe prédit la miraculeuse virginité de la mère du Messie. Voilà qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel. Emmanuel, c'est un mot extraordinaire. Dieu au milieu de nous. David prédit l'adoration des mages. Des rois de l'Arabie et de Saba lui apporteront des présents. Osée prédit le retour d'Égypte. J'ai rappelé mon fils de l'Égypte. Jérémie prédit le massacre des innocents. On a entendu de grands cris dans Rama parce que Rachel pleure la perte de ses enfants. Rachel, je crois que c'est la femme d'Isaac. Et elle est enterrée à Rama. Or Rama, c'est tout près de Bethléem. Et donc les enfants qui sont tués, Rachel les pleure. Il y a le tombeau de Rachel à côté de Bethléem. Malachie prédit la mission de Saint Jean-Baptiste. Je vais vous envoyer mon ange qui préparera ma voie devant ma face et aussitôt viendra dans son temple le dominateur que vous cherchez. Vie publique du Messie, sa passion et sa mort. Isaïe prédit les miracles de Jésus. En ce temps-là, les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront droit et la langue des muets sera déliée. Et Jésus va le faire à des milliers de personnes. David prédit ses vertus. Je suis pauvre et dans les travaux dès ma jeunesse, mais j'accomplirai votre volonté, ô mon Dieu. Mais dans les psaumes, il y en a tant. Zacharie prédit son entrée triomphante à Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Sion, car voici ton roi qui vient à toi monté sur une ânesse et sur le poulain de l'ânesse. Et Jésus, le dimanche des rameaux, pour nous, mais avant la Pâque, il entre à Jérusalem sur un ânon. Or, Dieu avait interdit aux Hébreux d'avoir des chevaux comme les païens, donc ils avaient des ânes pour faire la guerre. Vous me direz, c'est moins pratique, c'est tout aussi pratique. Et le roi était assis sur un âne, un ânon. Et quand Jésus se met sur l'ânon, qu'est-ce qu'il leur dit ? Je suis le fils de David. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas. Vous voyez, Jésus doux et humble de cœur, qui au début va lentement et dit aux gens, ne dites pas qu'il y a eu ce miracle, ne le dites pas, faites ceci ou là. Et petit à petit, il le laissera dire, et il le dira lui-même. Et là, le jour de l'entrée à Jérusalem, il prend un ânon. Il n'y a que le roi qui monte un ânon de manière triomphale. Donc il assume. Quand vous avez les exégètes, mes amis, qui disent « Ah oui, mais il faut traduire lorsque Ponce Pilate lui dit « Es-tu roi ?» Jésus lui dit « Oh, c'est toi qui le dis ?» Hein, une plaisanterie à deux balles. Non. Jésus dit « Tu l'as dit, je le suis. » Voilà comment il faut le traduire. C'est toi qui le dis, c'est offensant. Pourquoi ? Parce que Jésus est roi. Mais il est le vrai roi. Devant tous les rois, devant lequel tous les rois et tous les présidents de la République ont peur et persécuteront jusqu'au bout la religion. Car c'est le roi sur les consciences, sur les âmes. Il n'y a pas plus grande royauté. Tous les dictateurs ont voulu maîtriser les consciences, n'y sont jamais parvenus. Le roi des rois, c'est Dieu, c'est sa sagesse éternelle. Et Zacharie avait dit qu'il rentrerait dans Jérusalem triomphalement. Alors, les gens viennent et disent, eh ben on va le faire roi. Et là, Jésus s'en va. Pourquoi ? Il ne veut pas être le roi militaire et temporel. Et c'est une des raisons d'ailleurs de la condamnation du millénarisme. Parce que Jésus qui revient et qui écrase toutes les armées et qui devient le président de l'ONU, imaginez, Jésus en costume trois pièces. Bon, j'espère au moins qu'il restera en aube et en chasuble, en manteau hébreu, avec sa barbe, tout ça, en train de siéger à l'ONU et pendant 1000 ans, donner de très bonnes lois à tout le monde. Et puis au bout de 1000 ans, Lucifer reviendrait pour mettre la pagaille. Mais vraiment, il y en a qui pensent qu'on aura 1000 ans de prospérité fantastique. Oui. Mais même des catholiques pensent que ça va être merveilleux pendant 1000 ans. C'est une erreur. Attention, ça peut être pendant 100 ans, 500 ans, voire 1000 ans de plus. Mais pas avec Jésus, roi de l'ONU. Oui. Et revendeur chez Apple. Voilà. De l'American Way of Life pour tout le monde. C'est... Non, non, non. Ce qui fait quoi ? Zacharie dit quelle somme sera donnée aux traîtres. David, dans le psaume de David, il est dit : celui qui m'était si uni, en qui j'avais tant de confiance et qui mangeait de mon pain, a fait éclater contre moi sa trahison. Vous vous rendez compte, dans la prière de David, il y a le geste du Christ qui dit « Celui à qui je donnerai le morceau de pain, c'est celui-là qui me trahira. » Alors vous me direz, Jésus est un imposteur, il savait très bien que c'était marqué comme ça dans le psaume de David, et c'est pour ça qu'il a pris le morceau. « Ils pèseront ma récompense 30 pièces d'argent. » David prédit la passion du Sauveur. « Ils m'ont donné pour nourriture du fiel. » Et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Ça, c'est le psaume 21, qui est terrible. Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués de moi. Ils ont secoué la tête en disant, « Il a espéré au Seigneur que le Seigneur le délivre et qu'il le sauve, s'il est vrai qu'il l'aime. » Ils ont jeté sur moi les yeux sur moi, qu'ils avaient couverts de plaies. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont partagé mes vêtements et jeté ma robe au sort. La tunique d'Argenteuil, c'est là. C'est l'aube du Christ. La chasuble du Christ, c'est le manteau de trêve. De trêve. Turin. Non. Le suaire de Turin, et c'est le trève, le manteau qui est à trève. Mais la tunique d'Argenteuil, c'est le juste corps qu'avait Jésus pour porter la croix. Voilà, petite publicité pour le pèlerinage. Pardon. Isaïe prédit aussi la passion du Sauveur. Il nous a paru un objet de mépris, un homme de douleur. Nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu. Il a été blessé à cause de nos iniquités et nous avons été guéris par ses meurtrissures. Dieu l'a changé lui seul, l'a chargé lui seul de l'iniquité de tous. C'est extraordinaire quand même. Isaïe, c'est quand même 500, 600 ans avant Jésus-Christ. Non, Isaïe, c'est plus, c'est 700 ans avant Jésus-Christ, 750. Et cette description est impressionnante. Amos prédit les ténèbres qui arrivèrent à la mort du Seigneur. Le soleil se cachera en plein midi et le Seigneur couvrira la terre de ténèbres. Osée prédit la résurrection. Le troisième jour, il ressuscitera et nous vivrons en sa présence. « Aux morts, je serai ta mort. » Isaïe ajoute, « Son sépulcre sera glorieux. » Donc, voyez-vous, les pieux rabbins, les pieux juifs, quand ils sont face au psaume 21 ou 22, suivant la façon de compter, quand ils lisent Isaïe, ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire, « Bon, si c'est le Messie, bon, il passe à un moment donné par une grande souffrance. » Et ensuite, il triomphe et il donne la libération au peuple juif. Voilà. Voilà. On est en 2016. Oui, voilà. Non, on est en 1577. Non, 3577, je crois. Non, depuis Adam, 5577 environ. Et ils sont là et ils doivent faire un effort pour écarter la vision de Jésus crucifié par rapport à Isaïe, par rapport à Jérémie, par rapport au psaume de David. Cela ne s'applique pas. Non. Eh bien, le soir venu, vous voyez, ceux qui sont pieux, ceux qui disent, oh, quand même. Vous voyez. Un jour, il y a une juive qui était dans un restaurant. Je parlais de manière volubile, comme rarement chez moi. Et donc, on parlait de Dieu, de religion. Et il y avait une table à côté. Et la dame à côté se penche vers moi un moment, me dit « Excusez-moi, je suis juive. Vous pensez vraiment que Jésus est notre Messie ?» Et je lui dis « Oui, madame, tout simplement. » Mais voyez-vous cette femme ? Elle a le doute. Et combien de personnes de bonne volonté, tout ça, ne peuvent... Voilà, le jour où ils lisent, à un moment, ils tombent sur le psaume que nous allons lire, justement. Ici, les extraits du psaume 22 ou 21. Voyez, abandonné, méprisé, moqué, entouré par les ennemis, affaibli, assoiffé, mains et pieds percés, les os brisés, observé par les gens, tiré au sort et exaucé. Eh bien, voyez-vous, imaginez maintenant un pieux juif qui lit, c'est une traduction de l'hébreu, hein. Donc imaginez, ils l'ont comme ça. Hein. Alors. La phrase de Jésus en plus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le début du psaume. Jésus prend la prière de l'humanité, de son ancêtre David. Alors les gens disent « Oh, mais il désespère, c'est comme Mère Teresa, il est dans le noir, il est dans les ténèbres, il croit plus, voilà, ce n'était qu'un homme et il a désespéré sur la croix. » Eh bien, ceux qui connaissent la Sainte Écriture, ils savent que Jésus commence une prière messianique. Et voilà la suite. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je gémis et le salut reste loin de moi. » Il prend sur lui le péché, il se fait péché pour nous. Il prend sur lui la punition. Vous savez, quand je plaisantais sur les morts et les condamnations à mort de l'Ancien Testament, sur celui qui touche l'arche d'alliance, sur celui qui ne respecte pas le sabbat, eh bien là, maintenant, depuis Jésus, on n'est plus condamné à mort lorsqu'on ne va pas à la messe le dimanche. Ça reste grave, c'est pas bien de ne pas aller à la messe le dimanche. Mais on ne meurt plus. On n'est plus exécuté, on n'est plus lapidé. Les femmes adultères ne sont plus lapidées. Ça sera embêtant pour les divorcés remariés. Et l'exhortation apostolique du 19 mars prochain, si Dieu veut. Hein, imaginez, non ? On retourne à la loi mosaïque ? Chiche, répudiation, polygamie éventuellement, mais aussi lapidation. Non, donc non. Jésus prend sur lui toute la sévérité de la justice divine et nous permet d'espérer de manière extraordinaire les péchés qui peuvent nous faire honte. Tout cela est à la merci de l'amour du Christ qui détruit le péché, qui détruit la maladie, qui détruit la mort. Pour rien au monde, il faut abandonner un tel trésor. Mon Dieu, je crie pendant le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos. Alors là, il se plaint, comme Job, comme le pécheur, comme le désespéré, comme celui ou le juste qui est méprisé, qui est en prison, qui est calomnié. Et déjà, il y a un accent d'espérance. Pourtant, tu es saint. Tu habites parmi les champs d'Israël. Et ça redescend. Ah non, ça continue. Et toi, en toi se sont confiés nos pères. Ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ils ont été sauvés. Pas toujours, hein. Mais ils ont été récompensés après leur mort. C'est ça, le salut, le vrai. Ils se sont confiés en toi et n'ont pas été confondus. Et moi, je suis un ver et non un homme. Un ver de terre, vous voyez, sanglant, sanguillonnant. L'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Déçu. Le Messie qui se laisse arrêter par les Romains, qui se laisse tuer par les Romains. Ça ne peut pas être le Messie. Ça devait être le général en chef. Pas possible. Rebut du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête. Qu'ils s'abandonnent à Yahvé, qu'ils le sauvent, qu'ils le délivrent puisqu'ils l'aiment. Oui, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel, qui m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Dès ma naissance, je t'ai été abandonné. Depuis le sein de ma mère, c'est toi qui es mon Dieu. C'est l'humanité du Christ, hein. Et il parle de la Vierge Marie, hein, s'il vous plaît. Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche, car personne ne vient à mon secours. Il pense à sa maman, Jésus sur la croix. C'est David, c'est le psaume 21 ou 22, suivant les manières de compter. 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est un moment mélancolique et d'espérance du roi David et qui s'applique parfaitement au Christ 1000 ans plus tard. Autour de moi sont de nombreux taureaux, les forts de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os sont disjoints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me couches dans la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Comment voulez-vous qu'un juif pieux puisse lire ça sans être saisi? Oui. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me contemplent, ils se partagent mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Et toi, Yahvé, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours.
Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, tire-moi des cornes du buffle. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Révérez-le, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a pas méprisé, il n'a pas rejeté la souffrance de l'affligé. Il n'a pas caché sa face devant lui. Et quand l'affligé a crié vers lui, il a entendu. Donc là, Jésus exulte sur la croix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est allé au plus profond, et là, il est tendu vers sa future résurrection. Grâce à toi, mon chant retentira dans la grande assemblée. J'acquitterai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les affligés mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent Yahvé le loueront. Que votre cœur revive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers Yahvé. Et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Vous rendez compte? Car à Yahvé appartient l'Empire, il domine sur les nations. Les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent à la poussière, ceux qui ne peuvent prolonger leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Ils viendront et ils annonceront sa justice. Au peuple qui naîtra, ils diront ce qu'il a fait. Voilà la fin de la prière de Jésus quand même. C'est triomphant. Alors, je pense que vous devez être épuisés.